Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons avec grand plaisir pour une deuxième saison de notre émission consacrée à l'histoire des esclavages. Nous retrouvons Bernard Michon, maître de conférences en histoire à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et nous accueillons également aujourd'hui Jérôme Vigo. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bernard, je vous laisse présenter notre invité.
Jérôme Vigo est maître de conférences en histoire grecque à l'Université de Nantes. Il est membre du CRHIA et ses recherches portent essentiellement sur l'anthropologie historique de la société et de la culture en Grèce ancienne, l'étude de la parenté, l'étude des représentations du corps. Parmi ces publications, je signale à nos auditeurs un ouvrage dirigé en collaboration avec Francis Prost, « Penser et représenter le corps dans l'Antiquité ». Je signale également l'argument de la filiation au fondement des sociétés européennes et méditerranéennes, publié aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris 2011.
Merci Bernard. Alors nous allons débuter cette nouvelle saison avec un cycle d'émissions consacré à l'esclavage durant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et avec vous, Jérôme Vigo, nous allons nous intéresser à l'esclavage en Grèce ancienne. Alors d'abord, ma première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler la période dans laquelle on se situe quand on parle de Grèce ancienne ?
Oui, bien sûr. Donc les Grecs sont sans doute arrivés en fait donc en Grèce actuelle vers 2000 avant Jésus-Christ. Et chacun sans doute connaît donc au deuxième millénaire la civilisation mycénienne. Mais la période dont nous allons parler aujourd'hui, en fait, c'est le premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc on va dire surtout essentiellement du 8e au 1er siècle avant Jésus-Christ. La période la plus célèbre à ce moment-là, évidemment, c'est la période classique qui couvre les 5e et 4e siècles et qui est la période d'apogée d'Athènes et de sa démocratie, donc évidemment que tout le monde connaît aujourd'hui donc en France.
Et alors, à cette époque, quelle est l'extension du monde grec ? Quel territoire cela couvre quand on parle du monde grec ?
Alors, c'est une question importante parce qu'en fait, c'est très différent d'aujourd'hui. Le monde grec, globalement, par définition, c'est l'ensemble des régions, en fait, où sont installées des cités grecques. Et en fait, ces cités grecques, on les trouve de l'Espagne actuelle jusqu'à la mer Noire, jusqu'à la Géorgie, en passant par la Libye actuelle, Cyrène est une cité grecque, donc également donc évidemment en Sicile, en Italie du Sud, en Grèce actuelle, en Turquie actuelle. Et puis, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, en fait, on va trouver des cités grecques également en Égypte, au Proche-Orient et même jusqu'en Afghanistan. Alors pour vous donner une idée, vers 400 avant Jésus-Christ, on peut penser qu'il y a à peu près 1000 cités grecques, en fait, hein, qui sont installées donc, tout autour du pourtour méditerranéen et dans les régions que j'ai évoquées. Et puis, donc, à l'époque hellénistique, donc, qui suit donc, les conquêtes d'Alexandre, donc là, on est au 3e, 2e siècle après Jésus-Christ, eh bien, il faut ajouter encore 300 cités grecques qui sont fondées donc, en Orient.
Donc, un territoire immense, hein. Très vaste.
Beaucoup plus large, hein, évidemment, beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui. Et pour les Grecs, encore une fois, c'est vraiment, voilà ce que c'est que le monde grec. C'est l'ensemble de ces territoires.
C'est-à-dire, les Grecs hein, se conçoivent comme une civilisation qui a une très grande extension géographique. Alors, cette civilisation grecque propose un modèle politique hein, qui est celui de la cité-État. Vous avez également évoqué la démocratie athénienne. Alors, que pouvez-vous nous dire, Jérôme Vigo, par rapport à l'organisation politique de ces cités ?
Alors, effectivement, dans le monde grec, il y a eu des royaumes. Il y a eu des confédérations, mais fondamentalement, nous, ce que évidemment, nous allons étudier, ce que nous apprennent les sources hein, fondamentalement sur ce monde grec, c'est donc la présence de ces cités, hein, donc comme organisation politique de base. Alors, pour donner une première définition, c'est donc une communauté politique de citoyens indépendante, établie sur un territoire qui souvent est de taille assez restreinte, hein, autour de peut-être 800 km², 1000 km², 2000 km², avec une population donc également assez restreinte, qui possède donc ses propres institutions. Il y a une assemblée dans toute cité, ses propres lois, sa propre religion. Et évidemment, la religion est un élément essentiel dans l'Antiquité sur laquelle s'appuie donc la cohésion du groupe. Et cette cité est conçue comme une sorte de modèle en fait de civilisation. C'est-à-dire que chacun connaît ici donc la formule d'Aristote. L'homme est un animal politique. Bon, ça, fondamentalement, en grec, cela veut dire que l'homme est par définition un être vivant qui est en fait amené à vivre dans une cité. C'est sa politique, hein, amené à vivre dans une cité parce que seule la cité permet le bien vivre. Et par conséquent, quelqu'un qui vit dans un royaume, dans un empire comme dans l'empire perse, reste un barbare de ce point de vue-là. Seule la cité permet d'accéder à la civilisation.
Il y a des liens entre chaque cité, j'imagine.
Alors, il peut y avoir des alliances militaires, il peut y avoir des liens qui sont des liens justement religieux, il peut y avoir des liens qui sont des liens généalogiques. Certaines cités, donc, considèrent qu'elles ont les mêmes ancêtres, les mêmes fondateurs. Il y a des métropoles qui ont fondé d'autres cités, et donc ce que l'on appelle donc en grec une apokia, en fait, donc c'est une sorte d'essaimage en fait des cités qui ont fondé d'autres cités au fur et à mesure de leur histoire. Et donc toutes les cités, par exemple, de Sicile ou de Grande Grèce, hein, donc c'est-à-dire d'Italie du Sud, ont été fondées par des cités en fait donc de Grèce actuelle. Donc il y a des liens entre cités, il peut y avoir comme ça des alliances, mais chaque cité néanmoins est indépendante.
Et qu'est-ce qui le relie dans ce qu'on qualifie de monde grec, la langue,
la langue, la culture. Voilà, Hérodote en fait a une formule célèbre, hein. Ce qui nous unit, c'est le sang, donc le fait qu'ils ont les mêmes ancêtres, la langue, la culture et en particulier donc tout un ensemble de pratiques culturelles, en particulier la religion, donc le fait qu'ils ont les mêmes dieux, donc des pratiques culturelles telles que le sacrifice, hein. Donc tous pratiquent le sacrifice, ou bien encore par exemple le banquet. Hein, le banquet, ça fait partie des traditions culturelles fondamentales du monde grec.
Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Jérôme Vilgaud. Et Bernard, vous allez nous lire un extrait d'Aristote, Politique, livre 1, chapitre 2.
De l'utilité de l'esclavage selon Aristote. Parmi les instruments, les uns sont inanimés, les autres vivants. Par exemple, pour le patron du navire, le gouvernail est un instrument sans vie et le matelot qui veille à la proue, un instrument vivant. D'après le même principe, on peut dire que l'esclave est une propriété vivante. Si chaque instrument, en effet, pouvait, sur un ordre reçu ou même deviné, travailler de lui-même, comme les statues de Dédale ou les trépieds d'Héphaïstos, qui se rendaient seuls, dit le poète, aux réunions des dieux, si les navettes tissaient toutes seules, si l'archet jouait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se passeraient d'ouvriers et les maîtres d'esclaves. Le maître est simplement le maître de l'esclave, mais il ne tient pas essentiellement à lui. L'esclave, au contraire, est non seulement l'esclave du maître, mais encore, il en relève absolument.
Jérôme Vilgaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la place de l'esclavage dans la civilisation grecque, notamment d'après ce que Bernard vient de lire ?
Alors, ce texte d'Aristote, donc, il est un texte du IVe siècle, de la fin du IVe siècle, montre bien donc, justement quelle est en quelque sorte, la perception de l'esclave dans la culture grecque. C'est-à-dire que, évidemment, l'expression qui est à relever, c'est « instrument animé ». C'est-à-dire que fondamentalement, en fait, l'esclave est un corps et l'esclavage est considéré comme naturel, hein, dans la culture grecque.
Cette pratique est-elle générale, Jérôme Vigot, parmi les cités grecques ?
Alors tout à fait, on la retrouve dans toutes les cités grecques, hein, on la retrouve de toute façon dans la plupart des civilisations antiques. Elle est attestée dès les textes homériques, hein, et sans doute qu'il y avait des esclaves également donc, chez les Mycéniens auparavant, donc plusieurs siècles auparavant. Mais la période véritablement où augmente considérablement le nombre d'esclaves, c'est le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le moment où, en fait, dans le monde grec, se met en place une économie de marché. Une économie de marché, c'est-à-dire véritablement régulée par la loi de l'offre et de la demande. Et c'est au moment où, donc, en fait, le commerce s'intensifie, une économie de marché se met en place, que l'esclavage, en fait, se développe, l'esclavage en tant que marchandise.
Et est-ce qu'on peut évaluer la population servile à cette époque-là ?
Alors c'est très très difficile parce que de toute façon il est même très difficile d'évaluer la population grecque dans son ensemble. Pour vous donner une idée, donc pour le 4e siècle, les hypothèses des historiens hésitent entre 5 et 10 millions de Grecs donc vivant à ce moment-là. Donc vous voyez du simple au double. Alors on a des recensements qui sont attestés donc dans l'Antiquité, hein, bien sûr. On a des sources qui nous donnent donc des chiffres, mais souvent ces chiffres en fait sont très disproportionnés ou posent problème. On nous dit par exemple qu'à la fin du 4e siècle, à Athènes, il y aurait eu 400 000 esclaves, ce qui paraît quand même considérable par rapport à la taille du territoire et à la population générale. On pense qu'en fait, à Athènes, à ce moment-là, il y avait à peu près 200 000 habitants. Donc évidemment, il n'y avait pas 400 000 esclaves, mais il pouvait y en avoir à peu près aux 50 000 esclaves. Pour donner un autre exemple, à Sparte, où là vivaient à peu près donc 200 000 habitants, on peut penser qu'à peu près la moitié de la population était en fait en servitude.
Et quelles étaient les fonctions assignées aux esclaves ?
Alors, les fonctions les plus diverses, hein, en fait, toutes les tâches qui sont subalternes, mais même, je donnerai ensuite une autre remarque, on les trouve bien sûr donc, dans le travail des champs, l'activité de berger, le travail des mines, l'activité de ramor, tous les travaux en fait, donc, dans l'artisanat. On peut trouver bien sûr des nourrices esclaves, on peut trouver des secrétaires, on peut trouver également des, on va dire pour utiliser un terme anachronique, des gendarmes en fait qui sont esclaves, etc. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'en fait, il n'existe pas d'activité propre aux esclaves. C'est-à-dire qu'on peut trouver par exemple des chantiers hein, dans lesquels travaillent côte à côte esclaves et hommes libres, si ce n'est que donc, les deux vont recevoir des salaires, si ce n'est qu'évidemment le salaire de l'esclave va aller dans la poche de son propriétaire.
Jérôme Vilgo, Bernard Michon, merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous allons poursuivre notre échange sur l'esclavage dans le monde grec. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.